Nous allons donc reprendre notre étude de la lettre de Jacques et je vous propose donc la lecture des versets 12 à 18 dans le chapitre 1. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Dieu des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il faut avoir de la sagesse pour distinguer au sein de l'épreuve autre chose que la souffrance et la difficulté qui sont liées à la notion d'épreuve. Pour y voir autre chose, il faut la sagesse de Dieu, que seul Dieu peut donner, pour y discerner également les avantages, les bénéfices, même voire les bénédictions qui sont contenues potentiellement dans les épreuves. Et le plus grand et premier de ces bénéfices, c'est, nous dit Jacques, la couronne de vie. C'est la même promesse que Paul rappelle dans sa lettre aux chrétiens de Rome, que je résume pour vous de cette manière, en Romains 8, 17, « Vous hériterez du royaume de Dieu avec Christ si vous souffrez avec lui, si le temps de l'épreuve demeure pour vous, le temps de la confiance, de la foi et de l'amour envers ce Père qui vous a aimé. » Cette couronne de vie dont parle Jacques est très certainement celle de la vie éternelle. Alors je pense que nous aimons tous nous rappeler que celle-ci, que cette vie éternelle, nous est d'ores et déjà acquise par l'œuvre de notre Seigneur en laquelle nous avons placé notre foi. En tant que protestants, nous n'arrêtons pas de prêcher ça, et nous avons bien raison de le faire, et nous nous rassurons, nous confortons notre foi et notre reconnaissance en Dieu en appuyant sur cette réalité que le Christ a tout accompli pour nous. Mais c'est malgré tout oublier un petit peu vite que cette couronne est aussi celle du vainqueur qui, après avoir triomphé des épreuves de la vie, reçoit la couronne en question. Elle est donc le prix d'un combat d'une vie, le fruit de la victoire. Paul, qu'on a parfois opposé à Jacques, je l'ai rappelé dans les précédents messages, ne dit pas autre chose quand il aborde ce même sujet du prix de la couronne. 1 Corinthiens 9, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous ?» mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Philippiens 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est Paul qui parle toujours, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Quand on sait que Paul est auprès de sa mort, quand il écrit ces lignes, ça fait un peu frémir. Si lui se pose déjà la question, vais-je recevoir cette couronne ? Mais je cours pour tâcher de m'en emparer de ce prix. Puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. 2 Timothée 4, 7, 8. J'ai combattu le bon combat. Là encore, il est à la fin de sa vie. J'ai terminé la course. Écoutez, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Et enfin, Apocalypse 2, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Il ne faut pas s'étonner de ce que tous ces passages insistent sur la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire est toujours celle de notre foi. Car si elle résiste à l'épreuve, celle-ci la fait grandir, alors que si elle s'effondre, cet effondrement manifeste souvent que de foi réelle, en fait, il n'y en avait pas. Ce qui signifie qu'il ne faut pas comprendre ces textes comme étant des conditions que Dieu imposerait, mettrait pour qu'un homme puisse entrer dans le royaume de Dieu, mais bien une attestation de la filiation entre celui qui souffre et Dieu lui-même. Car comme le dit Jacques, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Comment peut-on prouver à Dieu que l'on l'aime? En lui faisant confiance dans l'épreuve, en tenant bon dans l'épreuve, en continuant à manifester de l'amour envers lui malgré la souffrance, malgré l'épreuve. Donc c'est l'amour que nous avons pour Dieu et la certitude de son amour pour nous qui soutient notre foi dans l'épreuve. C'est d'ailleurs la certitude profonde de cet amour pour nous qui permet à Jacques de clarifier une chose extrêmement importante. Et on va reprendre les versets 13 et 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs ou par sa propre convoitise. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Quand on y réfléchit, mes amis, quel est le plus grand danger pour notre âme, pour notre cœur, au travers de l'épreuve? Eh bien, c'est de penser que Dieu veut nous tenter, nous faire tomber au travers de cette épreuve. Autrement dit, que Dieu nous veut du mal au travers de l'épreuve que nous traversons. Ça, c'est le plus grand danger qu'on encourt, vraiment. Si on s'engage sur cette voie-là, croyez-moi, très souvent, on n'en revient pas. Donc si un chrétien prend ce chemin de dire « Dieu me veut du mal parce qu'autrement, je ne vivrai pas ce que je suis en train de vivre », le chrétien risque de voir l'épreuve se transformer en tentation. Il faut d'ailleurs relever, et je ne pense que ce n'est pas pour rien, que le mot « tentation » et « épreuve » traduit le même mot grec Perasmos. C'est le même mot, que ce soit épreuve ou tentation. C'est donc bien que la preuve que ça dépend de la gestion qu'on aura de l'épreuve. Parfois, ça en sera une et on grandira, et parfois, ça se transformera en tentation et on tombera. Mais c'est la même épreuve. Donc, croire que Dieu recherche autre chose que notre bien dans l'épreuve, c'est se méprendre sur le sens de celle-ci, sur la différence entre épreuve et tentation, et c'est également, plus fondamentalement, se méprendre totalement sur la nature de Dieu même. C'est qu'on méconnaît profondément qui est Dieu. Et c'est tout ça, et c'est une chance pour nous, que Jacques va tenter d'éclaircir. Donc commençons par dire avec lui que Dieu ne peut être tenté et ne tente lui-même personne. Ce qu'il recherche dans l'épreuve, on l'a assez répété, je pense, c'est notre sanctification, la purification de notre foi, et ce sont de bonnes choses. Alors, au travers de l'épreuve, peut-être qu'on va en douter à un certain moment, mais ce que recherche Dieu au travers de l'épreuve, c'est ça, c'est la maturité, la maturation de notre foi, et ça, c'est une bonne chose. Rappelons pour l'exemple que Paul était atteint d'une maladie apparemment très invalidante, qui constituait pour lui une véritable épreuve. Et il a prié, vous le savez comme moi, pour que Dieu le guérisse. Et pour rappeler la réponse que Dieu lui a donnée, je cite 2 Corinthiens 12, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc tu vas garder ta maladie. Tu vas la garder. Parce qu'elle t'aide. Elle t'aide à rester dans l'humilité et dans la dépendance. Donc c'est dans la fragilité et la dépendance, qu'il était le plus efficace. Cette maladie, indépendamment de la vie générale qu'on peut en avoir, la plupart des gens, sans doute, auraient, et Paul le premier, auraient dit, mais c'est terrible cette maladie, le pauvre. En fait, cette maladie était une bonne chose aux yeux de Dieu, et ça l'est devenu également aux yeux de Paul, puisqu'il écrit, toujours en 2 Corinthiens 12, Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, afin que le Christ puisse m'utiliser au travers de cette faiblesse. C'est pas ce que l'apôtre pensait au départ, certainement pas. Mais cette maladie, pour bien réelle, douloureuse et contraignante qu'elle était, était une bonne chose. Vous voyez, quand la semaine passée, je vous disais que le regard est important et que nous devons changer de regard, parce que changer de regard, c'est changer de vie, tout simplement. Alors, il ne s'agit pas ici, je le précise, hein, pour la forme, il ne s'agit pas ici, vous l'aurez compris, de sombrer dans le dolorisme. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir ou de s'infliger soi-même des souffrances qui auraient des vertus salvatrices, hein, mais bien d'accueillir avec sagesse et confiance les moments difficiles de la vie. Et ces moments, on le sait, finiront toujours par arriver. Venons-en à présent à la personne même de Dieu. Je dis, c'est ne pas comprendre le sens profond de l'épreuve, c'est se méprendre sur qui est Dieu. Dieu ne peut être tenté par aucun mal, puisque le mal est totalement étranger à sa nature. Il en découle que n'ayant rien en commun avec le mal étant même son ennemi, il ne peut évidemment en faire à personne, et encore moins en faire à ses enfants. Il ne peut produire ou même penser aucun mal. Dieu ne pourrait produire aucun mal, même s'il le voulait, car cette pensée lui est totalement impossible par nature, puisqu'il est bon, il est amour, il est incapable même d'envisager de faire le mal. Ce qui est très intéressant quand on y réfléchit, quand on lit l'Ancien Testament, même en tant que chrétien, parfois on se dit, quand Dieu commande, je le mets entre guillemets, commande des guerres, dit à Israël, tu vas prendre ce pays et tu vas éliminer les machins, les phérésiens, enfin je ne vais pas tous les... énumérer tous les peuples de l'époque en yin, qui se terminent en yin. Nous, on voit ça comme des horreurs, alors que pour lui, c'est l'émanation de sa justice. Donc il ne pose pas d'actes mauvais, il ne fait pas le mal en faisant ça. Il manifeste sa justice. Jacques nous dit donc que toute épreuve est néanmoins, même si Dieu n'est pas capable de produire le mal, potentiellement donc une tentation. Ça peut se transformer en mal. Ce qui tente, par définition, tente de nous faire sortir de ce qui est bon et juste, à savoir l'obéissance à Dieu. L'épreuve est un stimulant nécessaire et pourtant, l'épreuve comporte un risque réel et qu'on peut même qualifier de dangereux. Au lieu de nous conduire à la victoire et de faire de nous des hommes éprouvés, des hommes matures, des hommes et des femmes bien sûr, je ne suis pas très inclusif, excusez-moi, elle peut devenir pour nous une occasion de chute. Elle peut exciter notre défiance envers Dieu, nous porter à nous révolter contre lui. Elle peut éveiller aussi directement en nos cœurs, en nos âmes, des convoitises coupables. Et si nous voulons éviter que l'épreuve ait pour nous un si déplorable résultat, gardons-nous de cette pensée instillée par le doute, et c'est ça que Jacques veut nous dire, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui m'incite au mal, puisque le mal se présente à moi. Et si jamais, je pense que ça nous est arrivé à tous, hein, c'est peut-être votre cas en ce moment, si des sentiments mauvais prennent l'ascendant en vous, dans votre cœur, je pense qu'il ne faut surtout pas invoquer comme excuse la position difficile dans laquelle nous étions placés, la grandeur de nos souffrances, sans d'abord les mettre en rapport avec notre propre faiblesse. Quand on tombe, c'est souvent par faiblesse. Évitons par exemple la réaction de la femme de Job, vous vous rappelez ? Chapitre 2 de Job. Qu'est-ce qu'elle lui dit sa femme alors que le monde s'écroule autour de lui, il perd ses enfants, il perd toutes ses possessions, il n'a plus rien, il est un père qui n'a plus aucun enfant. Tous ses enfants sont morts. Il est en plus affligé d'une maladie terrible. Et que lui dit sa femme ? tu gardes ton intégrité, donc tu n'en veux même pas à Dieu, maudis-le et meurs, autrement, maudis-le et suicide-toi. Pour sa femme, c'est clair. Dieu est un Dieu qui apporte le mal. Et Job, dans son intégrité, refuse de prendre ce chemin-là. Donc, en un mot, gardons-nous par une voie ou par l'autre hein, de faire remonter la faute jusqu'à Dieu, car il expose l'homme aux épreuves pour son bien. Donc Dieu envoie l'épreuve, si vous le voulez, comme un remède à notre position, à notre situation. L'homme seul en fait un poison. Il est d'ailleurs très contradictoire hein, de supposer, même simplement supposer, que Dieu, le souverain bien, lui qu'aucun mal ne peut ni tenter ni approcher, lui qui est la source de tout don parfait, nous dit Jacques, en aucun sens il ne peut être l'auteur du mal. C'est un paradoxe absolu. Donc, soyons pratiques, on va essayer de l'être en tout cas, celui qui est tenté et qui pêche doit chercher la cause de son péché dans son propre cœur. La tentation n'aurait aucune prise sur vous ou sur moi si la possibilité qu'elle éclose complètement, donc qu'elle porte le fruit du mal à son comble, le péché, si un quelque chose n'était pas déjà présent en nous pour répondre à l'incitation de la tentation. Donc Jacques, si vous avez compris, dit, explique pourquoi, dit, ce n'est pas Dieu qui vous pousse vers le mal. Oui, mais si ce n'est pas Dieu, c'est quoi alors? Il passe le plan à côté. Ben, c'est simplement parce qu'en vous, il y a quelque chose qui résonne, qui fait résonance avec les tentations qui vous sont proposées. Le problème est donc le regard que nous portons sur les choses. Si je reviens à l'épreuve, ben, elle nous choque alors qu'elle ne devrait plus nous choquer. Elle nous choque d'emblée, souvent. On n'est pas très réceptif. Alors que Jacques, rappelez-vous, premier verset, considéré comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves que vous pouvez rencontrer. Vous sautez de joie quand ça tombe sur la cafetière? Moi, pas. Je ne suis pas encore à ce stade-là, donc soyez rassurés. Et si l'un de vous l'est, ben, alléluia, hein, merci, il faut me filer le tuyau pour l'être. Hein. Enfin, ça a la confiance, encore une fois, mais je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête, quand des choses pas très sympas m'arrivent, en tout cas, je ne suis pas au stade de faire le poirier et de dire « Ouais, merci Seigneur pour cette merveilleuse épreuve. » Donc, quand nous prenons de rechef l'épreuve pour quelque chose de négatif, c'est parce que nous perdons de vue, tout simplement, c'est pour ça que je parle de regard, la volonté de Dieu. Et ce qu'il veut, c'est votre sanctification et la mienne. Voilà. Notre vrai problème n'est donc pas, nous dit Jacques, votre Dieu qui permet l'épreuve ou voudrait vous tenter au travers de celle-ci, mais bien que cette tentation survenant de l'extérieur est venue assiéger votre vie, déranger vos certitudes, et qu'il y a quelque chose qu'elle révèle en vous, cette épreuve, potentiellement. Et c'est quelque chose, c'est de ça que Jacques va parler maintenant. Mais chacun est tenté, dit-il, quand il est attiré. J'ai mis entre guillemets, je l'ai mis ou pas? Non, dans mes notes. Donc attiré ou appâté, si vous préférez, et amorcé, autrement dit, entraîné par sa propre convoitise ou son mauvais désir. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante de péché, le péché étant consommé, produit la mort. Ça, c'est terrible, hein? Il a l'art de résumer les choses, là, quand même. Alors, le vendeur, parce que la tentation nous vend quelque chose, hein, le vendeur est bien à l'extérieur de la maison. La tentation n'est pas en vous, elle est extérieure à vous. Et comme tout bon vendeur, le vendeur frappe à la porte. Mais l'acheteur potentiel, lui, est bien à l'intérieur. La tentation est extérieure, mais la convoitise se trouve bel et bien en nous. Que nous soyons au centre de tout le processus est très clair quand l'on observe la façon dont Jacques exprime les choses. La tentation donc appâte, alors le verbe en grec est intéressant, c'est le verbe deleazo, et ça signifie littéralement poser un piège. quand on pose un piège, c'est pour piéger une proie, pour attraper une proie. Quelle est la proie dans l'analogie de Jacques, dans cette très belle image? Eh bien, la proie à appâter, c'est la convoitise présente en nous. C'est ça la proie de la tentation. Donc Jacques nous dit que la tentation naît de la convoitise, du désir de ce qui est défendu, du penchant naturel que nous avons encore pour le mal. Et c'est extrêmement important de comprendre ça, parce que ça, c'est de la théologie pratique. Plus pratique que ça, je pense que ça va être difficile à trouver. Donc la convoitise est ici personnifiée, vous l'aurez remarqué. Jacques en fait une personne. Elle attire, elle appâte, elle prend au piège la volonté. Alors la bonne nouvelle, c'est que la volonté peut résister. C'est le principe. Et si elle résiste, tout est dit, c'est la victoire. On a tenu. Mais si elle cède, si notre volonté cède, Jacques nous dit qu'elle s'unit à la convoitise. Alors, vous aurez sans doute saisi l'euphémisme. Rappelez-vous de l'euphémisme en Genèse. Hein. L'homme et la femme ne feront plus qu'une seule chair. On est un peu dans la même dimension ici. Il y a un rapport qui s'établit entre la tentation et la convoitise. Ils ont un rapport, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment cette généalogie-là que Jacques a à l'esprit. Hein. Et si la volonté fait un avec la convoitise, il y a un rapport, donc, quel est le résultat d'un rapport, normalement, surtout à l'époque, il n'y a pas de préservatif, si je peux dire ça comme ça, eh bien, il y a conception. Il y a un bébé qui va venir de ça. On va accoucher de quelque chose. Et ce quelque chose, dit Jacques, c'est le péché. Donc le péché, le rejeton de l'union entre la tentation et la convoitise. Et une fois que celle-ci a conçu, ça ne se tarde pas à se transformer en action, en acte. Donc c'est ce qui est rendu par cette image très frappante, me semble-t-il. Hein. Ayant conçu, elle met au monde le péché. Donc finalement, le péché accompli, une fois que le bébé est là, si je peux dire ça comme ça, enfanté, ben ce péché donne le jour à sa conséquence inévitable, la mort spirituelle, dit Jacques. Alors, vous savez que je me pose beaucoup, beaucoup de questions souvent. On peut se demander où commence la responsabilité du pécheur hein, que nous sommes. Hein. Et si le simple fait que la convoitise est en nous, nous rend d'office coupable, pas du tout. Alors, c'est clair, la convoitise est toujours une résultante de notre état de corruption. Mais elle ne nous rend pas d'office coupable de quoi que ce soit. Nous avons une responsabilité par rapport à ça, forcément, c'est de ne pas céder. C'est de résister. Résister au diable, il fuira loin de vous. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Et plus vous résisterez, plus la pression augmentera. Souvent. C'est comme ça. Il y aura quand même des périodes dans la vie où ça sera un peu plus cool. Mais tôt ou tard, ça revient. Il y a beaucoup de gens, par exemple, quand ils lisent les évangiles et la vie de Jésus, ils ont l'impression qu'à part les tentations, des aides, Jésus, il a vécu une vie plutôt cool par rapport à ça. Il a été tenté 3 fois dans le désert par le diable, puis le diable s'est retiré, puis voilà. Quoi. On ne va pas remettre la couche chaque fois à chaque page de l'évangile, mais Jésus, il a été tenté toute sa vie durant, comme nous, et même plus que nous, hein, puisque sa capacité de résistance était infinie. Rendez compte? Nous, on cède souvent à certains moments, donc ça relâche la pression temporairement, et après, on culpabilise, parce qu'on a péché. Jésus n'est jamais rentré dans ce modèle-là. C'est le principe de l'élastique, hein, vous vous rappelez. Hein. Nous, on tire sur l'élastique, et hein, il casse. Jésus, vous pouviez tirer sur l'élastique à l'infini. Le seul problème étant, pour Jésus, c'est que la traction, la pression était incommensurable. On ne peut même pas imaginer à quel point Jésus a été tenté. Donc, la responsabilité, notre responsabilité et la culpabilité, si on sait, ne deviennent complètes que si la volonté, notre volonté qui est attirée par la convoitise, acquiesce, cède et finit par se rendre à ce que propose la tentation. Dès ce moment, aux yeux de Dieu, le péché existe. Il est là. Donc, autrement dit, c'est la bonne nouvelle. Le seul fait d'être tenté, ça n'est pas un péché. Il faut quand même le rappeler, je pense. Le seul fait d'être soumis à une tentation, ça n'est pas un péché. Alors, ce péché, il est consommé soit intérieurement, par la résolution que l'on prend de suivre ce que la tentation suggère, soit extérieurement par l'action. On peut passer à l'acte. Ce qui signifie qu'on n'est pas obligé d'aller au bout des choses en commettant le péché pour avoir commis un péché aux yeux de Dieu, dans son cœur. C'est ce que les hommes du temps de Jésus n'avaient pas compris. Rappelez-vous, hein, Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Rappelez. Mais Jésus dit, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pour Dieu, le simple fait de convoiter une femme qui n'est pas la vôtre, c'est un péché. Même si vous ne posez pas l'acte d'adultère avec cette femme. Ce sont deux péchés effectifs. La différence, s'il y a une différence, il y a, c'est dans les conséquences. Si vous allez au bout de l'action, vous couchez avec une femme ou un homme qui n'est pas le vôtre, là vous commettez le péché dans les actes et les conséquences, les dommages collatéraux seront exponentiels. Nous sommes bien d'accord. Hein. Famille brisée potentiellement, difficultés relationnelles, enfin voilà. Le seul impact, si vous ne posez pas l'acte, c'est les dommages que vous faites à votre âme. Ce sera le dommage collatéral. Mais il y a bien un dommage et il y a bien un péché. Donc dans ce développement que nous propose Jacques du péché, le moment important, vous l'aurez sans doute compris, celui où l'homme, où nous avons le plus besoin de vigilance et du secours de Dieu, au secours, c'est lorsque notre volonté, sollicitée par la convoitise, mais libre encore, est mise en demeure de se prononcer. Il faut décider ce qu'on va faire. C'est là que ça se joue. Alors, le père de cet enfant, dans l'image qu'utilise Jacques, parce que quand il y a un enfant, il faut un papa, en règle générale. Mais le père de cet enfant péché, si je peux l'appeler comme ça, c'est probablement forcément le diable, quelque part. Le processus est donc clair. Enfin, je pense, enfin, j'espère, maintenant que c'est clair. La convoitise non maîtrisée, engendre le péché. Et le péché non confessé produit la mort. Ça veut dire que tout comme une bonne réaction aux épreuves peut nous faire grandir jusqu'à une complète maturité spirituelle, de même une mauvaise réaction à la convoitise aboutira à la pauvreté spirituelle et finalement, dans les faits, à la mort spirituelle. Il reste un petit passage à voir, les versets 16 à 18. Tout ça se tient en fait, hein, vous aurez remarqué sans doute. Hein. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Il va reprendre le thème, est-ce que Dieu peut faire du mal? Non, il va dire, il ne peut faire du bien, et il rajoute une couche, si je peux le dire, comme ça. Tout bien fait, et tout don parfait, tout ce qui est bien dans votre vie, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui est positif, épreuve compris, tout ça vient de Dieu. Viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, autrement dit, il nous a fait naître de l'Esprit Saint, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures, ou les prémices de ces créatures, dans d'autres traductions. Alors, ce Père des Lumières, ça devrait nous parler, je pense. C'est bien entendu le Dieu créateur déjà des luminaires célestes, du soleil, des étoiles, de la lune, qui reflète, bien que très imparfaitement, la lumière divine. Ça ne vous aura pas échappé que de temps en temps, en Belgique, il fait nuit. Donc là, il y a de la variation dans l'éclairage. Par contre, Dieu, lui, ne subit aucune variation. Donc le contraste proposé par Jacques est saisissant entre ce qu'il vient de dire au sujet du péché et ce que nous venons de lire maintenant. En effet, en contraste absolu avec la scène de mort qui découle d'une convoitise effrénée, nous avons à présent l'éclatante scène de la vie nouvelle qui émane de la parole de vie et de l'obéissance à cette parole, qui donne la vie. Le père des ténèbres, Satan, engendre la progéniture du péché et de la mort. Le père des lumières, lui, accorde le salut et la vie et est inchangé, immuable et éternel. Les ombres du soleil varient, mais pas celui qui a créé le soleil. Alors vous allez me dire, oh, mais, oui, d'accord, je dois résister, ma volonté, mais où est vraiment la solution à la tentation? Oh, bah, ce n'est pas très compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué à vivre, mais en l'énoncé, théoriquement, ce n'est pas compliqué. La solution aux tentations se trouve dans une étroite relation avec le Père et une réponse constante à sa parole, apprendre au quotidien à obéir à tout ce qu'il dit. Prendre la sainte habitude d'obéir. Nous devons nous appuyer en tout temps sur notre Seigneur de lumière et compter sur sa parole de vérité, parce qu'elle est la seule à être capable de nous donner la vie. Autrement dit, un nouveau regard, un autre regard, une autre sagesse que celle qui demeure en nous et qui n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Donc pour nous qui faisons partie des prémices, de la première récolte, de la nouvelle création, du royaume qui vient, il n'y a en fait dans l'absolu aucune raison de céder à la tentation. Nous devons apprendre à résister, sinon nous ne parviendrons jamais à cette maturité spirituelle que Dieu désire pour ses enfants, pour nous qui sommes devenus des enfants de lumière. En opposition à ce que nous étions avant, des enfants des ténèbres. Le constat est donc le suivant. Les ténèbres engendrent le péché, la lumière engendre la lumière. Et le choix est nôtre à chaque instant de notre vie. Et ça, c'est une responsabilité, mais aussi un privilège, une liberté incroyable. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est fatigant? D'où je suis placé? Oui. Très. Mais c'est le combat d'une vie. C'est le prix de la couronne. Je pense, pour le dire de manière un peu triviale, je pense que les glandeurs ont peu de chances de rentrer dans le royaume. Si on ne prend pas au sérieux ce que Dieu dit, vraiment, si on ne choisit pas notre camp dans les grandes questions d'aujourd'hui et même dans les petites questions de la vie quotidienne, on doit décider de prendre le parti de Dieu, ce qui sera cohérent par rapport à ce qu'il a fait de nous. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de lumière, prendre le parti des œuvres des ténèbres, ce n'est pas possible. Ça va à l'encontre de ce qu'il a fait de nous et de notre vocation profonde. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.